Ici Sophie Bouchard-Tremblay, bienvenue au deuxième épisode du balado « Après Gabriel ». Après Gabriel part à la rencontre de femmes déterminantes dans la communauté franco-manitobaine qui ont toutes été inspirées chacune à leur manière par la vie et l'œuvre de l'autrice Gabrielle Roy. Avant de devenir l'une des autrices les plus influentes du 20e siècle, Gabrielle Roy a débuté sa carrière en tant qu'institutrice. Une vocation fulgurante et emplie d'une grande passion.
En repassant, comme il m'arrive souvent ces temps-ci, par mes années de jeune institutrice dans une école de garçons en ville, je revis, toujours aussi chargée d'émotions, le matin de la rentrée. J'avais la classe des tout-petits. C'était leur premier pas dans un monde inconnu. À la peur qu'ils en avaient tous plus ou moins s'ajoutait, chez quelques-uns de mes petits immigrants, le désarroi, en y arrivant, de s'entendre parler dans une langue qui leur était étrangère.
Ces enfants de ma vie, 1977. Dans sa jeunesse, Gabrielle Roy était déjà studieuse et appliquée. À 19 ans, elle termine ses études avec une note presque parfaite de 99% au concours de français de l'Association d'éducation des Canadiens français du Manitoba. Elle obtient par la suite son brevet d'institutrice qui lui permettra d'enseigner dans divers villages au Manitoba, tels que Marchand, Cardinal, dans la ville de Winnipeg et enfin à la Petite Poule d'eau, qui lui inspirera d'ailleurs le roman éponyme. Cette expérience en tant que pédagogue fut marquante autant dans son œuvre que dans sa vie. Je rencontre aujourd'hui Émilie Lemay, fameuse artiste peintre canadienne. Émilie compte à son actif de nombreuses expositions, autant au Manitoba qu'au Québec, d'où elle est d'ailleurs originaire. Pédagogue d'exception, Émilie enseigne les arts et partage sa passion avec les adultes et les enfants. Elle a d'ailleurs été mentor en arts visuels à l'Université de Saint-Boniface en 2017. Elle participe activement à la vitalité de la culture francophone en tant que médiatrice culturelle. Émilie Lemay est sans aucun doute une personnalité importante de la communauté franco-manitobaine. Bonjour Émilie, c'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Comme tu es originaire du Québec, je me demande, qu'est-ce qui t'a amenée au Manitoba?
Je suis arrivée au Manitoba en 2002. J'avais rencontré mon mari à Montréal pendant ses études là-bas. Et puis, quand il est entré à l'école de droit ici, je l'ai suivi. Donc, j'ai transféré mes études moi aussi. Donc, je suis arrivée à Winnipeg. Et puis, pendant quelques semaines, j'ai habité dans ma belle famille, sur leur ferme, pour m'installer, puis les rencontrer. Et leur ferme se trouve à Cleefeld, un tout petit village à 50 km au sud-est de Winnipeg. C'est une communauté mennonite. La première colonie mennonite, c'est leur village. Alors, ils sont vraiment très près des traditions. L'église est encore le cœur du village. Et puis, comme ces communautés, leur réputation est vraie. Ils sont super travaillants puis ils chantent super bien les hymnes d'église. Donc, ça a été un dépaysement total dès mon arrivée par ce chemin-là. Puis en plus, un choc culturel parce que même si je viens d'un village, Knowlton, qui est bilingue, j'avais appris l'anglais sur le tas à l'école et puis je le comprenais bien, mais le parler, c'est un autre jeu, là. C'est une autre paire de manches. Ça fait que... ça m'a pris un temps d'adaptation. Ma famille et moi, complètement différentes de ma belle famille où je suis arrivée ici. Moi, mes parents avaient quitté l'Église catholique dans les années 70. Plutôt une vie rock and roll, sur le bord du lac Brome, dans un chalet quatre saisons, à faire du plein air, ski, bicyclette, randonnée. Tout ça, c'était plutôt mon background. Puis j'avais habité 6 ans à Montréal après ça, pour mes études, pour faire les beaux-arts. Et puis, donc, j'arrivais de ce parcours-là. Tu sais, j'avais passé plusieurs années en liberté à vivre la bohème à Montréal, faire toute l'exploration de la culture là-bas dans les petits coins du plateau Mont-Royal, du quartier latin, centre-sud, tout ça. Et puis, donc, j'arrivais à Winnipeg pour vivre l'aventure, suivre l'amour de ma vie. Et puis, là, faudrait que j'arrive à Gabrielle Roy à un moment donné. J'arrive. Donc, comme cadeau de départ du Québec, ma sœur Sophie, qui avait étudié en littérature, a eu l'idée, Jenny, de me donner La détresse et l'enchantement de Gabrielle Roy. Donc, je suis arrivée avec ça dans l'avion, je le feuilletais un peu, je lisais cette autobiographie-là pendant que j'explorais la ville en même temps. J'explorais ses Boniface, le centre-ville, l'université, toute la dynamique de la situation minoritaire francophone ici, ma situation qui était immersée dans le monde anglophone du Manitoba en arrivant pendant plusieurs années par la famille, par les études, par la force des choses, parce qu'il n'y a pas de programme d'études français en Beaux-Arts. Alors, ça, c'était ma première rencontre avec Gabrielle. C'était une expérience assez fascinante d'avoir toutes ces réflexions, ces observations, l'histoire du siècle passé dans les mêmes lieux que j'explorais, que je découvrais. C'était comme avoir une mentor et puis la façon descriptive qu'elle raconte le monde intérieur qu'elle avait, que ses proches avaient, comment ils se sentaient, les sentiments d'infériorité par rapport à la majorité anglophone, par rapport à leur pauvreté qui était venue d'injustices sociales dues à leur langue maternelle, à leur nationalité. J'explorais tout ça, puis j'explorais mon propre sentiment de me sentir étrangère, d'arriver, de plus être dans ma communauté québécoise, de me sentir comme l'autre, la personne différente que tout le monde trouvait un peu bizarre. Je m'exprimais pas super bien en anglais, alors j'étais vraiment dans cette zone-là en même temps que ma lecture. Donc c'était ma première rencontre, puis c'était assez percutant là. Comment c'était? C'était tellement une synchronicité, tu sais.
En fait, ta première lecture de Gabrielle Roy, c'était sa dernière œuvre, La détresse et l'enchantement. C'est bien ça?
J'avais lu d'abord un autre ouvrage. Quand j'étais à Montréal, ben là, c'était de force. On avait dans notre programme de français au Cégep l'obligation de lire Bonheur d'occasion. J'ai fait cette lecture-là. Puis encore une fois, c'était au moment où je visitais Saint-Henri pour la première fois. Donc, j'étais encore dans le lieu qui était décrit dans l'histoire, dans le décor de tous ces chamboulements personnel d'après de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, tout ça, chamboulement social, chamboulement mondial. Puis moi, j'étais dans une grande transformation. J'arrivais en ville, j'avais des espoirs d'être artiste. J'étais dans une situation financière super précaire. J'étais à mon compte pour mes études. J'avais des prêts et bourses, heureusement. Mais je m'identifiais beaucoup à l'histoire de l'héroïne, Florentine, qui est prise dans sa classe sociale, qui se sent comme limitée, qui n'a pas tant d'avenues, d'options, qui n'a pas de chance en amour. Elle essaie des relations interpersonnelles qui détruisent son amour-propre. Je trouvais ça, au début, super déprimant, puis trop proche là, de ma réalité. C'était comme... Mais au fur et à mesure où j'explorais les lieux qui avaient inspiré l'histoire, la condition féminine qui se développe entre l'adolescence et le monde adulte, j'ai vraiment trouvé l'utilité du roman. Mais c'est pas avant La détresse et l'enchantement que je suis vraiment tombée en amour avec son écriture, Gabrielle. Je l'avoue. Ouais.
Alors, tu as lu son premier roman à Montréal et son dernier au Manitoba. C'est quand même intéressant comme...
Charnière, là. Entre-temps, J'ai lu Ces enfants de ma vie l'été dernier. Complètement. Ça m'a complètement chamboulée. Ça m'a tellement émue. C'est... Puis encore une fois, c'était un cadeau. Je ne l'ai pas choisi. Je suis arrivée dans ma nouvelle maison en déménageant l'été dernier, puis ça avait été laissé sur l'étagère avec quelques autres livres, mais c'était... Ça me semblait super incongru, un roman en français. Les propriétaires n'étaient pas francophones ici. Je l'ai gardé, je l'ai lu, je leur ai redonné par la suite, mais... Mais wow! Ça, ça a vraiment... Ça a vraiment, tu sais, été cherché... Toute mon expérience en tant que pédagogue, même si j'ai pas été enseignante, comme Gabrielle l'a été, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants dans mon travail. Et puis, un peu toujours par la force des choses, j'ai grandi dans une famille de 4 filles, donc j'étais habituée à être avec des enfants, j'étais la deuxième, je m'occupais de mes plus jeunes sœurs, je gardais des enfants à l'adolescence, ensuite, je travaillais pour la commission scolaire pendant mes études secondaires pour m'occuper du centre d'aide aux devoirs. J'étais studieuse, j'étais première de classe. C'était la passion d'apprendre, là, pure et simple. Donc, cette soif, cette curiosité d'apprendre que Gabrielle exprime, je l'avais aussi, puis ça me parlait beaucoup. Puis, naturellement, les gens le sentent quand on veut apprendre avec eux, quand on veut explorer les connaissances, les faits, l'histoire avec eux. Les enfants, surtout, qui sont si sensibles aux ressentis. C'est une connexion qui s'est faite naturellement dans ma vie. Ça a continué toujours. Quand j'étais à l'université ici, je faisais partie du programme Odyssée. Alors, j'enseignais le français parlé. Je faisais des activités de monitrice de langue avec les enfants des écoles d'immersion à Winnipeg. Et puis... Ensuite, aussitôt que j'ai terminé mes études, ma carrière a commencé au Musée des Beaux-Arts à faire les programmes scolaires avec les enfants en français, en anglais. Ça a été le début, ça a commencé tout, vraiment, ça a continué toute ma vie. J'ai naturellement été vers ça sans le chercher vraiment.
Oui, tout comme Gabrielle Roy, tu as senti que le pédagogue peut favoriser un environnement propre au partage et à l'envie d'apprendre.
C'est ça. Ça, ils sentent. Puis c'est ces relations-là qu'elle construit avec eux qui fait que, sans être une pédagogue disciplinée puis autoritaire, parce qu'elle était jeune de toute façon, elle avait 20 ans quand elle a commencé à enseigner. Alors, c'était plus comme, bon, je te passe le bâton du savoir, puis on va explorer ça ensemble, puis je vais te montrer comment c'est le fun. Moi, j'aime ça, apprendre. Toi aussi, tu vas aimer ça. Mais surtout, de voir aussi comment elle avait de l'empathie pour leur situation personnelle qui était vraiment assez rock'n'roll, eux autres aussi, là. Je veux dire, beaucoup d'immigrants, beaucoup de communautés rurales qui vivaient éloignées, les fermes unes des autres, des situations pas faciles. Puis le réconfort qu'elle tenait à leur donner, ça m'a beaucoup touchée. Ouais.
Gabrielle Roy a enseigné dans plusieurs villages au Manitoba, à Cardinal, la Petite Poule d'Eau, par exemple. Toi, Émilie, as-tu déjà visité les villages francophones au rural?
Certains d'entre eux, oui. Ben, chaque fin de semaine, presque, c'était les soupers du dimanche dans ma belle famille. Donc, on allait à Clifford, mais on explorait les alentours. Donc, on allait à Saint-Pierre-Joly, Saint-Malo pour faire des petites randonnées, aller nager. J'ai aussi de la belle famille dans le coin de Marchand que j'ai visité souvent, la broquerie Marchand. J'ai fait le tour. Puis, naturellement, j'aime explorer aussi. Ça fait que j'ai vu beaucoup des régions rurales. Pas tant que ça, les villages francophones. J'ai pas eu la chance encore. J'espère que quand la pandémie va se terminer, je pourrai aller faire des visites, peut-être des ateliers. J'en avais fait à la Broquerie, Lorette, des villages un peu plus proches. Je sais qu'avec Saint-Claude, on avait eu une belle relation. Plus tôt cette année, j'ai été invitée à faire des ateliers dans les classes de l'école de Saint-Claude. Donc, je connais un peu l'historique, l'ambiance, l'atmosphère. Et puis surtout, tu sais, on connaît le climat, puis la vulnérabilité d'être au rural dans une tempête de neige au Manitoba, là, c'est ouf! Ça prend beaucoup, beaucoup de courage pour faire face à nos rues d'hiver. Oui. Puis de lire ces témoignages-là où elle partait en ski de fond pour aller s'assurer que son petit élève était correct à des milles de l'école, c'est impensable comme condition de travail. C'est ça la beauté de ces écritures, de la littérature de Gabrielle Roy, c'est que elle est tellement fine, elle décrit de façon si finement ces observations qui sont sensibles qu'on a l'impression de pouvoir revisiter les époques passées, de pouvoir sentir comment ils se sont rendus, où ils sont rendus dans l'histoire, comment les choses se sont bâties, comment nos sociétés ont évolué à être comme elles sont aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer les conditions qu'elle décrit. C'est fou! Surtout en tant que femme. Ça me rappelle beaucoup les témoignages de ma grand-mère, de ma mère, qui n'ont pas eu des vies faciles non plus. Puis la détresse de la mère de Gabrielle Mélina, ouf! Ça nous rentre dedans, puis ça reste, puis ça construit beaucoup d'empathie envers les gens qui ont des conditions moins faciles, qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'accès à l'éducation qu'on a maintenant, l'accès au travail, à des carrières de toutes sortes, chance d'avoir.
Tout comme Gabrielle Roy, tu te consacres à ta carrière artistique. Quel a été ton cheminement?
Bien, la direction de ma carrière a entièrement déboulé de ma condition de femme parce que pour moi, c'était absolument primordial d'être mère, de vivre l'expérience de la maternité puis d'élever ma fille à la maison comme ma mère l'avait fait pour moi. La liberté, l'exploration, la créativité, je trouvais que c'est un cadeau que j'avais reçu qui avait une valeur inestimable. Donc, je me suis donnée les 5 ans avant qu'elle entre à l'école pour être avec elle. J'ai quitté mes emplois, puis je me suis dit « je reviendrai quand je reviendrai ». Puis souvent, je me demandais si j'aurais la chance de peindre à nouveau, puis le temps, puis la motivation avec toutes les responsabilités familiales. Parce qu'en tant que mère à la maison, je continue à m'occuper de tout pour que mon mari puisse nous soutenir financièrement. C'est vraiment, je suis dans le modèle des années 50, là. Mais évidemment, avec ma fille, le temps s'est libéré à un moment donné. Puis aussitôt que j'ai eu la chance, j'ai décidé de me consacrer à l'épanouissement de l'art et de la culture qui m'était tellement important. Après tant d'années d'immersion en anglais, j'avais soif de connecter avec des gens qui ont un bagage culturel, des référents culturels qui sont connexes aux miens, à vibrer au son de la musique dans ma langue maternelle, à écouter, puis à participer, à prendre la parole avec les gens d'ici. À la radio, au théâtre, dans tous les événements culturels qui nous rassemblent. Moi, j'avais soif de me consacrer à ça puis de faire en sorte que ma pratique artistique me permette de participer comme médiatrice culturelle aussi à soutenir quelque chose qui m'avait manqué, dont j'avais vraiment compris la valeur à ce moment-là.
Je suis curieuse d'en apprendre plus à propos de ton parcours artistique. Voudrais-tu nous en parler?
Oui, ça fait plusieurs années que je me concentre sur le paysage, depuis 2005. Avant ça, je faisais beaucoup de portraits. C'était ma passion à Montréal. Les gens de toutes sortes m'inspiraient tellement, toute leur charismatique personnalité. Et puis, quand je me suis retrouvée au Manitoba, ça a été beaucoup moins naturel de connecter avec les gens parce que j'étais beaucoup plus isolée. Donc, c'est en nature, dans les champs, dans les forêts, où j'ai retrouvé où je me suis recentrée, j'ai retrouvé la plénitude, l'ouverture des ciels, puis le mouvement de la lumière, puis des couleurs. Ça a été d'une façon beaucoup plus introspective, puis méditative. Ça a été comme ça que je me suis rapprochée, ça fait un peu drôle de dire ça, mais rapprochée de l'humanité dans l'écosystème naturel, si on veut. J'étais tellement... je me sentais tellement en marge que de connecter avec mes sentiments, avec l'ouverture du paysage, un paysage inhabité, mais grandiose, avec une force qui rappelait mes propres envolées artistiques, mes propres ambitions et mes propres sentiments. Alors, j'ai vraiment... Ouais, je me suis vraiment tournée vers quelque chose d'un peu plus sauvage, d'un petit peu plus... d'un petit peu plus obscur, tout en cherchant la lumière, puis en cherchant qu'est-ce qui pourrait me ressourcer, qu'est-ce qui pourrait me redonner un peu la passion de faire ce que j'aime, la passion de connecter avec les gens qui m'entourent, puis la passion d'être qui je suis, sans frontières, sans gêne, sans peur. Ça a été... Puis je te dirais que la maternité a eu son rôle à jouer là-dedans parce que une fois qu'on a passé à travers les chamboulements de la naissance, puis d'élever un enfant, tout ce que ça demande comme force qu'on ne sait pas qu'on a puis qu'on puise quelque part, même parce qu'il le faut, après ça, on sort grandi puis l'ego prend le côté, je te dirais.
Émilie, tu es reconnue pour tes œuvres représentant le ciel manitobain. Quel est ton rapport au paysage du Manitoba?
Le rapport au paysage puis au territoire culturel, c'est tellement émouvant. Puis, je ne sais pas trop comment dire ça, mais l'idée de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, de pouvoir évoquer notre expérience personnelle, le cheminement, le parcours et puis ce qu'on traverse, même si c'est de façon plutôt abstraite, avec juste les couleurs, puis les textures, puis l'effanescence des nuages qui bougent, puis qui se reflètent dans le ciel manitobain, ben, je pense que c'est vraiment une ambition louable.
Le considères-tu unique, le ciel manitobain?
Oui, le ciel des prairies, c'est un endroit unique. Jamais il y a une lumière qui peut être aussi ouverte. Jamais on se sent autant au milieu de l'univers. Tu sais, on voit l'horizon d'un côté à l'autre, puis ça change en un coup de vent. La lumière, le mouvement, c'est vraiment... C'est un effet assez dramatique. Moi, je me rappelle être arrivée, là, puis d'avoir fait comme « Wow! » Je sens ma place dans l'univers. C'est ici, je suis petite, mais j'en fais partie.
Je me dis que c'est intéressant qu'à Montréal, tu travaillais le portrait et qu'ici, au Manitoba, tu peins plutôt le paysage. C'est très représentatif des deux lieux. Gabriel Roy aussi s'intéressait plus au portrait à Montréal avec Bonheur d'occasion, par exemple, qui était ancré dans un mouvement plus social. Contrairement à des œuvres qui traitent du Manitoba et qui sont plus contemplatives, comme La Route d'Altamont, par exemple.
C'est vrai, c'est un terroir différent, puis c'est une énergie, une dynamique de vie qui est complètement différente. À Montréal, on est sur une petite île, on est d'une population super dense, et puis la culture, c'est effervescent, il y en a partout, c'est éclaté. C'est peut-être aussi parce que je venais du rural à l'origine, comme elle. En arrivant là, ben juste wow, on se retrouve dans le melting pot, là! On découvre toutes les cultures, toutes les façons de vivre.
Quels sont tes projets présentement, Émilie?
Je me suis tournée vers des projets qui sont un peu plus du domaine éducatif. J'ai fait beaucoup d'ateliers de création. Excuse-moi la sonnette. J'ai fait beaucoup d'ateliers de création. Fait que j'ai vraiment eu besoin, encore une fois, de connecter avec les gens. Puis la seule manière de le faire, c'était par le virtuel. Donc, j'ai organisé des ateliers de création en partenariat avec le milieu scolaire, le milieu éducatif à Saint-Boniface, avec l'Université de Saint-Boniface, avec aussi l'accueil francophone pour faire des ateliers de rencontres et d'accomplissement de soi avec les nouveaux arrivants qui peuvent se rencontrer entre eux, rencontrer une nouvelle pratique artistique, essayer des nouvelles choses. Donc, ça a été vraiment axé sur la rencontre au virtuel. En plus, j'ai fait une résidence de création virtuelle. Donc, à partir de mon studio, j'ai ouvert mon studio grâce au réseau Nord-Ouest. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, ça a été vraiment une façon extraordinaire de faire de la peinture en direct, qui est vraiment une passion que j'adore. Oui, mais dans le fond, ça a été plus axé sur le processus artistique. Je pourrais pas dire que cette année, j'ai fait, comme d'habitude, bon, des œuvres peaufinées en studio qui sont, tu sais, un corpus d'œuvres dont le langage visuel amène à quelque chose en tant que tel. Mais c'est plutôt vraiment l'ouverture au processus artistique, comment le développer, comment l'ouvrir au plus grand nombre de gens possible par les voies virtuelles.
Ce qui nous mène à la dernière question. Qui est Gabrielle Roy en 2021?
Gabrielle Roy, c'est une pionnière de la vie artistique dans l'Ouest canadien. Son histoire de vie, c'est l'humanité, les relations interpersonnelles, l'importance de l'autre, puis la connexion. C'est un apprentissage d'une vie, s'ouvrir à l'autre. Alors, je pense qu'elle a beaucoup à nous apprendre encore une fois. J'espère qu'elle va toujours être obligatoire dans les cours de français. C'est elle-même une activiste de défendre le français à tout prix, défendre l'honneur de ses parents qui l'ont eu si difficile. Vraiment, c'est de prendre ce flambeau-là puis de dire à tout prix, je vais venger les difficultés que vous avez eues puis je vais réussir à vivre en français puis accomplir tout ce que vous avez rêvé. Ça, c'est un beau flambeau qu'elle nous passe, je pense.
Très inspirante. Merci beaucoup, Émilie. Toi-même, tu es très inspirante. Je suis tellement contente d'en apprendre plus sur toi comme ça.
Merci, Sophie.
Voilà qui met fin à notre entretien avec Émilie Lemay. Au prochain épisode, nous explorerons la passion du théâtre de Gabrielle Roy, accompagnée de la directrice artistique du théâtre Cercle Molière, Geneviève Pelletier. Après Gabrielle est une production et une création originale de la maison Gabrielle Roy. Je suis Sophie Bouchard-Tremblay, animatrice, co-scénariste et co-recherchiste. Après Gabrielle ne serait pas possible sans toute notre équipe. Robert Pietlen à la composition musicale, à la prise de son et au montage sonore, Carole Ménéguel à la narration et Anne Brazo, assistante du patrimoine et co-recherchiste. La Maison Gabrielle Roy remercie les provinces du Manitoba et du Québec, ainsi que Patrimoine Canada pour leur soutien généreux. La Maison Gabrielle Roy remercie le Fonds Gabrielle Roy pour son aimable autorisation de l'utilisation des extraits de l'œuvre de Gabrielle Roy, ainsi que le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest pour les ressources et les recherches.